une pierre, deux coups. Une émission mensuelle proposée par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, un mardi par mois à 17h30, en rediffusion le mercredi à 10h. Avec les pierres dessinées du chemin livre, les artistes Troups et Baudouin nous racontent des histoires de voyages et de rencontres, d'envol et de liberté. Thierry Pélissier, conservateur de la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du Lot, fait lui aussi parler les pierres dans un langage différent, celui du paléontologue et du géologue. Il nous dévoile la frontière entre Causses et Quercy blanc, invisible aux non-initiés. Le paysage se mettra alors en mouvement et trouvera une profondeur chronologique, celle bien lointaine des temps géologiques. Balade entre Causses et Quercy blanc sur la commune de Bâche, avec Thierry Pélissier, Troups et Baudouin et Patricia Moniaux.
Alors là, on est vraiment au sommet de la butte. Bon, ça va, l'ascension a été relativement rapide. Vous avez été bon sur ce coup-là. Mais concrètement, c'est quand même vraiment une butte et c'est vraiment un point haut, puisqu'on a une vue à 360 degrés sur tout le paysage. Et quand on regarde ce paysage, justement, on peut déjà voir qu'il y a une différence entre l'endroit où on est et ce qui est à l'horizon. L'endroit où on est, c'est cultivé. C'est cultivé, alors certes, c'est pas la bosse ou l'abri, hein, mais on a des zones de prairies, des zones de champs, des zones labourées, alors que tout autour à l'horizon, on n'a que des zones boisées. Et si je représente ça, alors je ne suis certainement pas dessinateur, je suis même carrément très nul en dessin, mais je gribouille quand même parfois des choses. Donc si je dessine, et j'ai triché, j'ai préparé avant un peu, hein, mais bon. Donc si je dessine le paysage, donc nous on est sur une espèce de butte ici, et si je vais vers là-bas, ben, ça descend et puis on a une surface relativement plane ici. Et si je vais de ce côté-là, exactement en face de là, ça descend, puis ça remonte un petit peu, et puis ça redescend de l'autre côté. Là où ça remonte un petit peu, ben, vous avez l'ancien moulin à vent qui est ici. Qu'on voit là-bas. Et ici d'ailleurs, il y avait aussi à une époque un moulin à vent. Il a été démoli il n'y a pas très très longtemps. Si on regarde donc à l'horizon tout autour, on peut regarder tout autour de ça, on a des zones boisées. Donc on a plutôt des zones ici avec des arbres un petit peu partout, essentiellement donc boisées. Idem de l'autre côté. Voilà. Et puis entre les deux, eh bien, on a cette zone cultivée avec des prairies, avec des champs labourés. Et dans les champs labourés, on peut remarquer que la terre a une couleur plutôt sombre. Et d'ailleurs, elle est sombre parce qu'elle a été labourée récemment. Dès qu'elle sèche, et on le voit un petit peu entre le sommet du champ et le moulin, elle devient très blanche. Et cette terre, eh bien, c'est celle qui marque le Quercy blanc. Autrement dit, tous ceux qui est cultivé autour de nous, tout ce qui est en prairie autour de nous, c'est du Quercy blanc, c'est-à-dire des choses qui ont entre 23 et 20 millions d'années et qui correspondent à un ancien lac. Et logiquement, tout ce qui est boisé à l'horizon, eh bien, c'est différent, eh bien, c'est le Causse, avec ses calcaires beaucoup plus massifs, donc moins de sol, donc moins de végétation, donc moins de zones cultivées et plus de zones boisées. Et concrètement, c'est le Causse que... On est encerclé par le Causse. On est sur un point haut qui correspond à un ancien lac ou marécage, encerclé par le Causse. Alors dans ma phrase, il y a un truc qui doit, pas, oui. qui doit poser question quand même.
Le lac et la mer, oui.
Le lac et la mer, oui.
Ouais,
il y a des problèmes de hauteur.
Pourquoi on est haut sur un endroit qui est plus jeune que le bas
qui Alors ça c'est effectivement une première question. On est plus haut sur quelque chose qui est plus jeune que ce qui est plus bas. Alors ça c'est encore assez logique dans la mesure où les couches, plus on descend et plus elles sont vieilles.
Parce qu'elles ont été érodées.
Oui, après, mais en d'autres termes, ça veut dire que si je creusais là-dessous, si je faisais un forage là où on est, je vais traverser sur tout le terrain du quartier blanc et puis je vais tomber sur le cos. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, toute la zone boisée qu'on voit à l'horizon autour de nous, elle passe sous nos pieds. Et d'ailleurs, ça va me permettre de le dessiner. En fait, la surface du cos boisé, elle est là, et en fait, ça passe quelque part. Alors, c'est très approximatif ce que je fais, mais ça passe dessous. C'est-à-dire que tout ce qui est là-dessous, c'est du cos, et tout ce qui est là-dessus, c'est du quartier blanc. Voilà. Si on regarde d'un peu plus près les couches, vous avez vu que on avait des puits qui se trouvaient au bord de la route, ici. Alors des puits, c'était pas vraiment un puits, c'était plus un truc pour récupérer l'eau de ruissellement de la route, comme on l'a dit. Par contre, des vrais puits, il y en a. Alors il y en a un qui est en contrebas, on l'a pas vu en montant, mais qui est quelque part par ici. Et il y en a un autre qui est dans la cour de la maison, qui est là, juste à côté de nous, et qui est quelque part par là. Et là, pour le coup, ce sont des vrais puits. Ce sont des vrais puits, c'est-à-dire qu'en fait, ils descendent jusqu'à une certaine profondeur. Comme par hasard, ils descendent jusqu'au même niveau que ceux qui sont au bord de la route, parce que là, on a une couche imperméable. En fait, on a là des argiles blanches. Je vais les représenter par plutôt en grisé en l'occurrence, mais en fait, ce sont des argiles blanches. On a ici toute une couche imperméable, et qui correspond d'ailleurs à la zone essentiellement cultivée autour. Et au-dessus, on l'a vu en montant, et au-dessus, on a plutôt, c'est un peu plus dur, ce sont des calcaires. Mais ce sont des calcaires un peu particuliers, il s'est frité, on l'a vu, ce sont des calcaires qui sont argiles. Donc voilà ce qu'on a ici, ici c'est la même chose d'ailleurs. Donc, j'ai dessiné des couilles de calcaire, et puis j'ai dessiné aussi dans l'autre sens, parce que le calcaire, c'est toujours très fracturé, il y a toujours des fissures à l'intérieur. C'est pour ça que le calcaire, on le dessine un petit peu comme les moellons d'un mur, parce que ça évoque à la fois les couches et les fracturations verticales qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est valable pour le dessus. Dans le cos, on a vu que ce n'était pas le même calcaire. Mais il y a aussi une autre différence, c'est que ce calcaire, il n'est pas horizontal. En fait, les couches sont un peu plissées. Bon, là aussi, c'est très approximatif ce que j'ai fait. Mais, et même chose, c'est du calcaire. Alors, il est marin, certes, mais c'est toujours du calcaire. Donc, il dessine toujours des couches et des fissures là-dedans. Voilà. Ça, c'est le cos. Ça, c'est le quartier blanc. Et finalement, le quartier blanc est posé presque comme une crêpe sur le cos. Ça va jusque-là ?
Oui.
Bon, ça, c'est simplement le paysage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ça ? On sait que cette roche, elle s'est formée, grosso modo, il y a 150 à 200 millions d'années. On sait que celle-là, elle s'est formée, grosso modo, 23 à 20 millions d'années. Voilà à peu près ce qu'on a. Autrement dit, entre les deux, on a plus de 100 millions d'années. Exactement. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé entre les deux ? Ben, rien qu'avec mon croquis mal fait, on peut quand même avoir des éléments. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ?
La mer s'est retirée, il y a eu des pressions d'un territoire qui pousse l'autre territoire.
La tectonique, on appelle ça. C'est pas la danse. On parle bien du ballet des plaques tectoniques, donc on pourrait même relier ça à la danse. Mais c'est long, c'est...
Et peut-être que dans un premier temps, ça a laissé des... La mer n'était plus là depuis longtemps, depuis peut-être 70 millions d'années, et que ça a laissé des creux. Dans ces creux, il est venu de les lacs et tout ça.
Mais ce que tu dis, Edmond, il y a quelque chose de très important, c'est que tu parles de creux, alors qu'aujourd'hui,
c'est des bosses,
on est sur un poêle.
Ça devait être des creux.
Derrière, oui, ça fait forcément des creux, parce qu'en général, les lacs, on les trouve rarement sur les points hauts, plutôt sur les points bas. Mais bon, voilà. Mais effectivement, dans ce que tu dis, il y a énormément d'éléments de cette histoire-là. Première chose, c'est qu'effectivement, il y a eu des forces tectoniques qui ont plissé les roches du Côte. Bon, elles ont moins de 150 millions d'années, puisque ces roches-là sont déformées, elles sont venues après les 150 millions d'années, elles sont forcément venues avant que le land vienne nous recouvrir. Donc on a une fourchette qui n'est pas très précise. Alors on peut être plus précis, mais pas en regardant sur ce qui est là. On peut être précis simplement en allant chercher des éléments d'information à l'échelle régionale, voire aussi de l'autre côté du bassin aquitain, là où il y a les Pyrénées. En fait, c'est lié à la formation des Pyrénées. Et ces roches, elles se sont plissées. Les plis qu'on a, le fait qu'elles soient inclinées, le fait aussi qu'elles soient cassées, ça remonte à peu près à 45 millions d'années. C'est à peu près ça. Donc la mer s'est retirée, je vois que tu as révisé, hein, c'est bien 70 millions d'années, bravo. Donc la mer s'est retirée il y a 70 millions d'années, et puis il y a 45 millions d'années, avec la formation des Pyrénées, les couches du Causse se sont déformées. Qu'est-ce qu'il a fallu avant que le lac arrive? Obligé.
Une épaisseur, quoi, par-dessus.
Avant que le lac arrive.
Ça forme une cuvette.
Oui, mais comment faire une cuvette?
En étirant.
C'est une solution, il y en a une autre.
Avec une cassure.
Oui, Isabelle?
Un s'effondrant.
Ça peut être un effondrement, ça peut être un étirement. Alors, en fait, les deux reviennent au même, ouais, parce que si j'étire, le milieu va s'effondrer. Donc, les deux reviennent au même. Non, mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Si vous voulez faire une cuvette chez vous, qu'est-ce que vous faites? Mais vous allez creuser. Vous allez tout simplement creuser. Bon, à l'époque, il y a des millions d'années, il n'y avait personne pour creuser. Donc, mais qu'est-ce que c'est qui peut creuser? Naturellement.
L'eau,
non, tout simplement.
La pluie.
La pluie, l'eau qui ruisselle, le vent, le gel, autrement dit, ce qu'on appelle globalement l'érosion. Donc ça veut dire que... Alors, on en a la preuve, parce que s'il n'y avait pas eu d'érosion, cette couche qui est là, cette couche de calcaire marin du Jurassique, celle-là, là, que j'ai encadrée, normalement, où elle allait? Elle continue, elle passait par-dessus, or elle a été, en quelque sorte, gommée. Et gommée, en géologie, c'est de l'érosion. Donc elle a été érodée. Donc après le plissement, après 45 millions d'années, il y a eu une période d'érosion. Une période d'érosion qui est venue en quelque sorte raboter le Causse, qui l'a complètement aplani. Et d'ailleurs, regardez le paysage. Certes, on est sur un point haut, mais on l'a dit en arrivant, c'est loin d'être vertigineux. La dominante, ce qu'on voit, l'impression qu'on a vraiment ici, c'est que le Causse, c'est vraiment quelque chose de relativement plat. Mais c'est cet énorme coup de rabot qui a, à un moment donné, grossièrement aplati le Causse. Alors le rabot était mal affûté. Fait qu'il y a eu des endroits effectivement où il y avait des creux, il y avait encore quelques petits creux, quelques petites bosses qui se baladaient. Mais bon. Et ce phénomène-là, il s'est passé après 45 millions d'années et avant 23. Donc ce phénomène-là, il est entre 45 et 23 millions d'années.
C'est un rabot géant.
C'est un rabot géant qui s'appelle l'érosion. En fait, c'est des cours d'eau qui descendaient du Massif central et qui... un peu comme des ouettes d'ailleurs aujourd'hui, qui fonctionnent très rarement, mais quand ils fonctionnent c'est très violent, et qui déplacent leur lit latéralement. Donc en déplaçant le lit latéralement, ben, ça finit par aplanir complètement la région. Alors ça, je ne peux pas le dire avec ce que je vois ici, pour le dire, c'est parce qu'il y a une connaissance régionale qui permet de le dire.
Voilà. Et Thierry, du coup, pour revenir au chemin de Saint-Jacques, il passe où par rapport à ça?
Je vais te le montrer, mais je raconte l'histoire et après
D'accord.
je montre où passe le chemin. Elle est pressée, Patricia.
Ben ouais, parce que je vois l'heure qui tourne et tout ce qu'il y a à faire dans la journée.
Bon, hein, allez, j'accélère. Bon, après, comme l'a dit Edmond, en fait, c'était un point de bas. Ça veut dire que un lac est venu recouvrir cet élément-là. Et ça veut dire que la couche de calcaire qui était là, forcément, à une époque, eh ben, elle se prolongeait ici. En fait, le lac recouvrait tout le Causse. Et oui, le lac recouvrait tout le Causse. Et on en a des témoins. C'est-à-dire que quand on se balade sur le Causse, bon là on est vraiment sur la limite de l'écart civilable, mais quand on est sur le Causse, on voit des petits morceaux de temps en temps. Alors c'est le cas à Escamps, par exemple, des petits morceaux de quercy blanc qui sont... qui témoigne justement du fait que ça a tout recouvert. Voilà. Quand je dis tout recouvert, c'est au moins jusqu'à la vallée du Célé. Donc tout le sud, en tout cas, a été recouvert par ça. Et si aujourd'hui, ça reste comme ça, c'est parce que l'érosion, et cette fois-ci, je peux réellement la matérialiser,
a enlevé tout le reste.
Mmh. Et il reste cette espèce de butte qu'on appelle une butte témoin. En géologie, on appelle ça, c'est butte témoin, c'est le mot qu'on emploie, parce qu'elle est témoin justement d'une histoire qui va un jour disparaître.
Parce que l'érosion ne sont pas trop passées là-dessus, quoi. L'érosion n'est
alors,
pas trop passée.
En fait, les fleuves, ils sont passés avant ça. C'est-à-dire que c'est les fleuves, ils ont raboté avant, puis le lac est venu, et puis ça, c'est... Alors ça, quand est-ce que ça a commencé à disparaître? Ben, c'est lié à l'enfoncement des vallées actuelles. C'est-à-dire que le Coise est en train de se soulever très très lentement, et du coup, les vallées ont tendance à s'encaisser de plus en plus. Du coup, ça relance l'érosion, et ça date à peu près de 3 à 4 millions d'années. Ça a commencé il y a 3 à 4 millions d'années. Voilà, cet érosion qui a décapé un peu toute cette surface-là.
C'est une autre érosion, quand même.
Oui, c'est l'érosion, et qui est toujours en cours. Donc, ça veut dire aussi que cette butte témoin est appelée normalement à disparaître. Mais bon...
On sait dans combien de millions d'années.
Je peux me hasarder un pronostic, mais personne ne pourra le contrôler. Donc, je peux dire à peu près n'importe quoi. C'est pas demain, c'est sûr. Mais bon.
4 millions d'années, ça ne correspond pas. Alors, les dinosaures ont vu ça.
Alors, les dinosaures, ils vivaient à l'époque où les calcaires marins du Jurassique sont formés. Mais après, par contre, tout ce qui est la formation des Pyrénées, tout ce qui est l'érosion, le lac, etc., les dinosaures, ou du moins la plupart des dinosaures, avaient disparu.
Ils avaient déjà disparu.
Ouais, ouais. Ils ont disparu il y a 65 millions d'années à peu près, les dinosaures. Alors, presque tous, parce qu'en fait, les dinosaures, contrairement à ce qu'on dit, n'ont pas disparu. Les oiseaux sont des dinosaures. Donc, mais bon, ça c'est juste pour la petite anecdote. Donc, cette histoire, finalement, on peut au moins retrouver 4 ou 5 étapes là-dedans. La mer, il y a 150 à 200 millions d'années. Puis le retrait de la mer. La formation des Pyrénées, il y a 45 millions d'années, qui se manifeste jusqu'ici. Une grande phase d'érosion entre 45 et 23 millions d'années. Et au passage, cette phase d'érosion elle est très importante pour le géoparc, parce que c'est pendant cette période-là que l'eau va creuser des grottes et des gouffres qui vont se remplir de phosphate. Et donc, en fait, c'est ce qui a été exploité, qui a livré les fossiles un petit peu partout. Et d'ailleurs, les fossatières sont surtout présentes à Bâche et à Veilas, autour de cette zone-là, parce que c'est la zone qui a été bien protégée par ces terrains lacustres qui sont venus par-dessus. Voilà. Peut-être aussi que sous nos pieds, tout à l'heure j'ai parlé de forage, peut-être que mon forage pourrait tomber pile poil sur une fossatière. C'est pas exclu. Mais bon... si vous ne voulez pas faire fortune, vous pouvez commencer à creuser. Voilà. Autre élément, puisqu'on parle de creusement de grottes et de gouffres, quand on part vers Veilas, et c'est au bord du chemin de Saint-Jacques, et je vais enfin répondre à la question de Patricia, en fait, il y a au bord du chemin, dans un champ, un petit champ, il y a un trou, un gouffre qui descend, et qui descend à peu près à 50 mètres de profondeur à plusieurs niveaux, à peu près ça. Et quand il pleut, ce gouffre il fonctionne. C'est-à-dire que comme ici il y a des terrains imperméables, quand il pleut, il y a de l'eau qui ruisselle là-dessus. Tac, et l'eau disparaît là. Et il disparaît tout à l'heure, il va au Chartreux à Cahors.
Ah oui.
Oui, elle va au Chartreux à Cahors. Donc c'est tout petit. Alors ça c'est tout récent. Ça a moins de 3 à 4 millions d'années. Alors que les fossatières à côté ont. Elle, entre 20 et 45 ou 50 millions d'années, sont creusées à deux périodes différentes. Parce que l'eau et le calcaire, ça fait toujours la même chose. Quand les conditions sont réunies, ben, y a des grottes et des gouffres qui se creusent. Voilà. Au niveau utilisation humaine, ben, c'est très clair. Hein. Calcaire du cos boisé. Les zones argileuses cultivées. Et la gestion de l'eau. Avec les différents types de puits qu'on a, récupérer l'eau de ruissellement ou creuser pour aller jusqu'au niveau imperméable. Je ne sais pas si vous connaissez le site de Cordes dans le Tarn. Le site de Cordes dans le Tarn, au milieu, au sommet de la colline, Cordes, c'est exactement la même chose qu'ici, mais en plus grand. Et au sommet de la colline, il y a un puits qui fait 110 mètres de profondeur. En fait, c'est exactement la même chose. Ils ont creusé ce puits pour descendre jusqu'au niveau imperméable qui est en bas. C'est exactement le même principe que si on faisait un puits à un bourronné. Sauf que là, il suffirait de creuser une vingtaine de mètres, alors que là-bas, c'était 110 mètres. Et bon, voilà, c'est le même principe. C'est quelque chose qu'on a tout le long de cette limite Coscar-Ciblan.
Il y a de l'eau sur la zone imperméable.
Il y a de l'eau qui est là-dessus.
Qui tient comme ça, quoi.
Mais ça, c'est du calcaire, donc l'eau s'infiltre à travers. Mmh. Et puis, elle est bloquée par ce niveau.
C'est pas une nappe phréatique.
Alors, dans le calcaire, on ne parle pas vraiment de nappe phréatique parce que ce n'est pas une nappe continue comme dans du sable. Dans du sable, quand tu es dans du sable, tu creuses à un endroit, tu trouves l'eau à 3 mètres de profondeur, mm-hmm. tu creuses 10 mètres à côté, tu trouves l'eau à 3 mètres de profondeur. Ouais. L'eau imbibe régulièrement toute la masse du sable. Mm-hmm. Alors que dans le calcaire, c'est des strates et des fissures. Donc c'est découpé en blocs avec des conduits à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus irrégulier. Donc en général, on ne parle pas vraiment de nappe. C'est une réserve aquifère, mais il n'y a pas la notion d'étendue latérale. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on n'emploie pas le terme nappe. Mais bon, après, on est dans des subtilités. Là.
Voilà.
Voilà, alors, Patricia.
Thierry.
Oui. Où je passe, où il passe ce chemin et où se trouvent ces zones-là. Alors, on va essayer de voir ça sur la carte. Sur deux cartes même. Alors, on va commencer par la carte basique. Tiens. Merci. Qui est la carte topographique, celle que tout bon randonneur du chemin de Saint-Jacques a à sa disposition. Et on peut voir déjà qu'on retrouve ce qu'on vient de voir dans le paysage. Veilla, c'est là. La butte est là. Les zones cultivées. Et tout autour, la zone de côte. Voilà. Alors on voit aussi que vers Escamp, là on est à Escamp, on retrouve les zones cultivées. Et comme par hasard, c'est une autre zone de Quercy-Blanc.
Et ça, c'était des lacs, alors.
C'était le même lac, et Marécaille, en fait, qui recouvrait tout. Hein. Et là, on a un lieu-dit, le lac de Quézac, où il y a le lac actuel. Mais c'est pareil, on voit que c'est cultivé autour, et c'est aussi un témoin de l'ancien lac. C'est-à-dire qu'on a un lac actuel qui est à l'emplacement de l'ancien lac. Bon, parce que avec le temps géologique, on peut à peu près tout faire. Hein. Donc concrètement, là, c'est du Quercy-Blanc, là, c'est du Quercy-Blanc, là, c'est du Quercy-Blanc, et tout ça autour, c'est du Cos. Et sur la carte géologique, on retrouve exactement la même chose, puisque... Ce qui est le Quercy-Blanc, sur cette carte, ça apparaît soit en rose, soit en orange. Et
c'est
ce qui est...
C'est quoi le rose et orange?
Alors, rose et orange, c'est le Quercy-Blanc. C'est les terrains qui, dans le lac et le marécage d'il y a 20-23 millions d'années. Et tout ce qui est en bleu ici ou en bistre là, là c'est un peu différent, c'est les calcaires marins et jurassiques. Ça, c'est le secteur de Veilas. Là, la butte. La zone cultivée. Mmh. Ça, c'est la zone du lac de Quézac. Mmh. Ça, c'est la zone d'Escamp.
Mmh.
Et là, on voit que quand on va vers ici, mais en fait, parce qu'en fait, on est plus bas dans la topographie, et donc là, tous les terrains du lac ont été conservés. Alors que là, ils ont été érodés.
Mmh.
Voilà. Alors, le chemin de Saint-Jacques a fini. Oui. Le chemin de Saint-Jacques pour finir, mais en fait, de Bâche, voilà, le Bâche se trouve juste là à l'angle. De Bâche, au départ, on prend la route et puis on prend le chemin, le GR qui est ici. Mm-hmm. Et là, on est dans le Cos. Alors, on est dans le Cos, pourtant, c'est cultivé. C'est parce qu'on est en fait sur la surface d'érosion. Le grand coup de rabot qui a donné ça a aussi fabriqué de la terre. Donc, on est sur ce secteur-là. Et dès qu'on arrive ici, quand on, quand on tourne à droite, hein, on rentre dans le Quercy-Blanc. Et on est en fait dans le paysage, on est à la limite entre zones boisées, là derrière le lit, là, on est à la limite entre zones boisées, et on voit la butte ici, on rentre dans le Quercy-Blanc. Donc on y rentre ici. Ensuite, si on suit le GR, eh bien, on re-rentre un petit peu dans le Cos, et puis plus loin, on re-rentre dans le Quercy-Blanc, puis à nouveau dans le Cos, et puis plus loin en allant vers là-bas, au-delà de là où il y a le gîte.
Ouais.
À côté de l'Alba.
Poudali, oui, là de Poudali, on rentre vraiment dans le Quercy-Blanc et dans la grande zone Quercy-Blanc continue qu'on a vue sur la carte géologique précédente. Donc, autrement dit, entre Bâche et Veilas et le gîte de Poudali, ben, le GR, le sentier de Saint-Jacques, ben, il joue justement entre le Cos, Quercy-Blanc, Cos, Quercy-Blanc, Cos, Quercy-Blanc. Mmh.
Voilà. Et après, il est sur un grand bout de Quercy-Blanc.
Et après, il est sur un grand bout de Quercy-Blanc, pas jusqu'à Cahors, parce qu'après, on rentre dans un autre type de calcaire jurassique, mais bon, pour un bon bout de temps. Ouais. Voilà.
Et alors, les pierres sur lesquelles Edmond et Jean-Marc ont dessiné, elles viennent de Gréalou.
Alors c'est sympa. Alors.
Alors c'est, on est sur de la pierre qui a quoi, 180.
Qui a, enfin,
qui a été formée en, plutôt particos 190 millions d'années.
Non, entre 150 et 180 millions d'années, mais particos oui, milieu marin oui, et jurassique oui. Donc oui. Ils ont utilisé plutôt. Alors j'ai pas fait l'inventaire de toutes les pierres qu'ils ont utilisées parce que honte à moi, je les ai pas toutes vues encore.
Elles viennent toutes du même endroit, elles viennent de grès à loup d'une
elles
carrière.
Elles sont dures.
Oui, elles sont dures. C'est pas des calcaires tendres comme non, ceux qu'on a sur le Quercy-Blanc. Donc a priori, c'est plutôt des calcaires oui, de jurassique marin. Ouais. C'est le support. Hein, alors à grès à loup, c'est quelque part vers 160 millions d'années à peu près les roches qu'on a. Grosso modo, 165 millions d'années. Donc, c'est, voilà. Vous avez dessiné sur un support un velin de 165 millions d'années.
Ils ont trouvé ça un peu rude.
Un peu rude, ah, mais, et un peu épais aussi, peut-être. Voilà. Alors, par contre, dans le Quercy-Blanc, il y a aussi des niveaux de calcaire qui sont utilisés et qui se taillent très bien pour le bâti. Donc quand on part d'ici vers Caussade, on traverse le petit village de la Barthe par exemple, où on a toutes les maisons sont construites en calcaire blanc très bien taillé, alors que celles du Causse sont en général pas blanches et beaucoup plus irrégulières comme pierre. Et c'est souvent d'ailleurs dans la maison que vous avez là. Regardez le support du auvent.
Ouais.
Vous en avez un qui est en pierre, vous voyez que c'est une belle pierre, blanche et très bien taillée. Ouais. En fait, c'est une pierre du Quercy-Blanc. Et par contre, les éléments du mur, notamment ce qu'on a sur le côté gauche là-bas, c'est beaucoup plus irrégulier et beaucoup plus gris, c'est les calcaires du Causse. Là aussi, on est à la frontière entre les deux et le bâti le reflète aussi.
C'est plus facile à tailler le blanc, évidemment.